moi, le changement qui m'a choqué profondément cet été, c'est de voir des arbres mourir à cause de la sécheresse. Et ça, c'est un changement auquel je ne m'attendais pas. Ça m'a bouleversé parce que ça fait 15 ans que je réfléchis à ces sujets-là, et ben, j'avais pas imaginé voir des arbres mourir à cause de la sécheresse comme ça, quoi.
Et si c'était ça, le début de la fin de notre monde, ce genre de vision, scénario catastrophe, ou réalité trop angoissante pour être acceptée? La théorie sur la fin de notre monde industriel porte un nom, c'est la collapsologie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis la première diffusion de ce reportage, en début d'année, la crainte de l'effondrement a pris une toute autre dimension, avec l'apparition d'un virus qui a paralysé l'économie mondiale, la production, les échanges, donnant l'impression concrète du tout début de la fin de notre monde. Si cette crise sanitaire nous force désormais à réfléchir sur notre façon de vivre, de consommer, pour les partisans de l'effondrement, le point de non-retour est déjà atteint. Pour eux, la chute est inévitable. Mais au-delà des prévisions alarmistes, les collapsologues veulent préparer un autre monde, une société plus raisonnée.
C'est plus une question de valeur, c'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement les valeurs que la société actuelle porte et transmet ne me conviennent plus.
En France, la collapsologie a pris une ampleur importante avec le succès de l'ouvrage de Pablo Servigne, agronome de formation, devenu le porte-voix des collapsologues. Cette théorie est aujourd'hui sortie du seul cercle des initiés, au point d'avoir été au cœur d'une série diffusée sur Canal+.
C'est n'importe quoi tout ça, Julien, putain. Il y en a déjà eu des crises, hein ? On va pas se mettre à flipper maintenant ? Ça va s'arranger ? Non ?
Ce n'est pas une science à proprement parler, mais une théorie, étayée certes par des données scientifiques diverses, climatologiques, biologiques, géologiques. Elle fait encore débat, mais pour ceux qui l'ont adoptée, ils ont changé leur vie.
Pour nous, ce n'est pas dramatiser la situation, c'est juste l'accepter et être prêt à ce que ça arrive. Moi, mon plus grand regret, là, pour l'instant, et je bataille là-dessus, c'est de pouvoir ramener toute la famille et les amis pour que s'il arrive quelque chose, on soit au plus près, quoi.
Effondrement et après, c'est un reportage de Mathieu Mondoloni avec Sandrine Malon à la prise de son.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour. Alors voici le projet d'acte. Ce n'est plus un projet, c'est notre vente. On va la signer. Alors il s'agit ici d'une vente d'un immeuble. Vous vendez à monsieur Thierry Bernard Jean-Pierre et madame Anne Catherine, son épouse, demeurant ensemble à Strasbourg. Donc un changement de région, changement de vie, puisque ça devient une résidence principale, on est bien d'accord.
Ah, hein, tout à fait. Oui.
Voilà. Le bien vendu est donc à Champagnac-la-Prune. C'est une maison individuelle à usage d'habitation, comprenant au sous-sol un garage, une cave, au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle d'eau et un WC. Au premier, un couloir, deux cuisines, trois chambres, un bureau, une salle de bain et un WC avec un grenier au-dessus. Vous avez également un abri de jardin, un terrain attenant. Vous entrerez en jouissance également ce jour, le bien étant libre de toute location, toute occupation. J'ai vu les clés, donc vous n'avez plus rien à récupérer.
Alors les clés, on a d'autres.
Très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors le prix convenu, 73 500 euros. Il va être payé comptant ce jour par la comptabilité. Alors on va pouvoir passer à la signature s'il n'y a plus d'observation.
Je vais aller finir, je suis presque.
Allez-y.
On est dans une étude notariale à Argentat, petite ville de Corrèze. Et vous l'entendez, c'est un jour important pour Anne, 40 ans, et Thierry, 49 ans. Ils sont venus signer l'achat de leur toute nouvelle maison.
Et c'est terminé.
Vendu.
Ils ont traversé la France, ils viennent d'Alsace, tous les deux. Et ils vont emménager dans les mois à venir dans un petit village situé à 30 km d'ici, Champagnac-la-Prune. C'est un peu le premier jour du reste de leur vie.
Non, bah bienvenue. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la Corrèze ?
En premier, on voulait un endroit le moins pollué possible.
Oui.
Loin de toutes les centrales nucléaires, dépôts d'uranium et compagnie. On voulait un endroit où on puisse cultiver à peu près toute l'année, où il ne fasse pas trop froid l'hiver, pas trop chaud l'été. Oui. Et du coup, ça réduit le secteur vers le centre de la France. Mm-hmm. Et après...
On est venu.
Non. Après, j'utilise souvent mon pendule, en fait.
Oui.
Donc, j'ai pendulé sur la carte de France et je suis tombé sur Tulle.
C'est vrai.
Ouais.
D'accord. Ouais. Bon, bah, bienvenue en Corrèze.
Merci beaucoup.
Merci.
J'espère que vous serez bien. bien accueillis. On est bien chez nous. Les gens ne repartent pas. On a quand même des arrivées.
Oui. Puis on ira vite savoir qu'il va y avoir un petit bébé. Ouais. Ça, c'est quand même formidable.
À la Roche-Cadillac. Oui, c'est un regroupement.
Oui, c'est un regroupement.
Il y aura un bébé dès qu'on sera arrivé.
Voilà. Plein de bonnes choses dans la maison.
Bon, au revoir, maître.
Au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'est parti. Au revoir, merci.
Au revoir. Bon retour. Hein.
Ouais, à vous ouais, aussi, merci beaucoup.
Ouais, on est ravis, c'est,
ouais.
C'est la suite de l'aventure. Maintenant, on va passer dans des choses plus concrètes. Quoi.
Ouais.
On pourra programmer des travaux, faire des plans. Maintenant, on pourra y aller quand on veut. En tout cas, c'est une étape importante, comme l'a été le jour où on a trouvé cette maison. Ouais. Et la prochaine étape importante, c'est le déménagement.
Vous disiez, Thierry, tout à l'heure, que le choix de cette région n'a pas été fait totalement au hasard. Pourquoi la Corrèze ?
Parce que c'est une région très verte, pas polluée, où il y a des sources d'eau un peu partout. Et pour nous, c'était important d'avoir ces éléments-là pour notre autonomie, en fait. On voudrait être le plus autonome possible.
Et pas de centrale nucléaire aussi, je crois, dans la région.
Oui, et surtout, très loin des centrales nucléaires.
Donc, c'est pas évident, mais...
on a regardé une carte de Greenpeace, là où il y avait les centrales, les sites de stockage, et en gros, il reste que le centre de la France qui est épargné en cas d'accident nucléaire.
C'est quelque chose que vous craignez, un accident nucléaire ?
Pas vraiment, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est déjà arrivé, ça a déjà failli arriver en France, c'est une possibilité. Et ça peut être aussi être un attentat dans une centrale. Greenpeace a montré plusieurs fois que c'est très facile de rentrer dans une centrale, donc c'est pas exclu non plus.
Est-ce qu'il y a cette idée, là, vous avez employé le mot autonomie, oui. Décroissance, sécurité aussi, pour le coup, s'éloigner. Oui. Cette idée, on en a déjà parlé, de se préparer à un possible effondrement de notre civilisation.
Oui, ça fait partie des choses auxquelles on pense. Bah, du coup, on est très content d'avoir trouvé une maison assez grande pour pouvoir accueillir d'autres personnes qui auraient besoin d'aide si elles n'ont plus d'endroit où aller, s'ils n'ont plus d'endroit où trouver à manger, de l'eau propre. Voilà.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée du survivalisme juste entre vous avec le bébé, mais il y a l'idée de créer quelque chose, éventuellement, toujours cette idée de solidarité, si jamais on arrivait à ce stade-là.
Tout à fait.
Tout à fait.
Ouais,
tout à fait.
On va la visiter, cette maison ?
Ah, mais avec grand plaisir !
Avec grand plaisir, ouais.
Et on vous propose du coup de se retrouver, il y a une petite place en fait, il y a un monument aux morts, ouais, c'est là où il y a l'église en fait.
Ouais, l'église. D'accord. De toute façon, les portables passent à Champagnac ou...
Oui.
Ou
c'est... Ça dépend ce que tu as comme fond.
Oui, d'accord. Et voilà. Comment ça va? On est arrivé à Champagnac-la-Prune, ce petit village de Corrèze. Il y a plein de petites maisons en pierre, des espèces de longères. C'est très joli. C'est hyper joli.
Bah oui. C'est pas pour rien qu'on est tombé sous le charme.
On a le soleil avec nous en plus et c'est là que vont donc s'installer dans quelques mois maintenant Anne et Thierry. Aujourd'hui, c'est un premier repérage pour eux. Ils sont arrivés avec leur voiture, avec leur remorque aussi. Ils ont traversé quand même la France entière. Hein. Ils viennent de l'Alsace et de la ville de Strasbourg pour s'installer dans ce tout petit village de 160 habitants. Et bientôt trois de plus, Anne, Thierry, évidemment, le bébé qu'ils attendent et qui va naître dans quelques mois et qu'ils souhaitaient éduquer ici et faire grandir ici dans ce village.
Vous êtes nos premiers visiteurs officiels du coup. Hein.
Ah bah c'est super, quel honneur.
Hein?
J'ai vu le panneau à vendre qu'il faut que vous décrochiez désormais.
On va l'enlever, hein, c'est vendu là, c'est bon.
On va tester nos nouvelles clés.
Rappelez-nous, c'est combien de mètres carrés, de terrain, d'habitation ?
Le terrain fait 1,5 hectare, c'est 15 000 mètres carrés. Et la maison fait 206 mètres carrés habitables.
Ouais, il y a à peu près 100 mètres carrés par étage.
Ouais.
Donc il y a le rez-de-chaussée, le premier. Ah oui. On va vous montrer tout ça.
Et par rapport à Strasbourg, pour comparer, vous viviez dans combien ?
65 mètres carrés.
Ouais.
Voilà, c'est la bonne clé. Voilà, bienvenue dans notre maison. Voilà. On va peut-être ouvrir les volets. Donc
ici, ça sera la chambre du bébé. Pour pas perdre le cachet de la maison avec les pierres, on fera une isolation intérieure, mais d'une forte épaisseur aussi, à peu près 15 cm, pour avoir besoin de chauffer le moins possible.
Oui. Voilà. Puis dans la démarche d'autonomie, de toute façon, c'est déjà de voir de quoi on peut se passer qui n'est pas indispensable. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à un peu de confort et un peu de...
C'est quoi les différentes solutions que vous avez déjà imaginées là, pour justement gagner en autonomie ?
Déjà, cultiver ce qui va nous nourrir en premier. Ensuite, au niveau énergie, en dépenser le moins possible. L'isolation dont on parlait avant. Ensuite, on a dans l'idée de faire installer des panneaux photovoltaïques pour avoir notre propre production en cas de coupure de courant. On a dans le terrain une ou plusieurs sources, enfin au moins une, qu'on voudrait capter, on voudrait faire une mare et essayer de ramener de l'eau vers la maison. Il faut qu'on vérifie si elle est potable, a priori elle devrait l'être. Donc on n'aurait déjà pas besoin d'acheter de l'eau. On a un petit peu de bois, mais si ça ne suffit pas dans la région, il y a des forêts partout. Donc on aurait de quoi se chauffer, de quoi boire et de quoi manger. Et un abri pour dormir.
Donc, en cas d'effondrement, vous avez la certitude d'être et en sécurité et de pouvoir continuer à vivre et à faire grandir le bébé aussi. Quoi. Non,
oui, en tout cas, ouais, c'est vers ça qu'on va essayer de tendre. Ouais.
Parmi les gens qui réfléchissent à la société post-effondrement, il y a les plus connus, Yves Cauchet, l'éphémère ministre de l'Environnement Lionel Jospin, il y a également Pablo Servigne, qu'on ne présente plus, qui a écrit plusieurs ouvrages, et puis il y a également les membres de l'Institut Momentum, dont Benoît Thévard, que nous allons rencontrer maintenant. Il réfléchit, lui, à ce à quoi ressemblera notre société une fois qu'elle se sera effondrée, et quelles solutions il faudra apporter. Bonsoir.
Bonsoir.
On peut rentrer ?
Entrez, entrez. Super.
Merci. Bonsoir.
Je suis ingénieur et membre du conseil d'administration de l'Institut Momentum, donc à Paris, qui est présidé par Yves Cauchet. Et donc, voilà, ça fait un certain nombre d'années, en effet, que j'ai des réflexions, que je travaille en tout cas sur ce qui pourrait nous arriver en tout cas dans les mois, dans les années qui viennent.
Vous avez notamment rédigé ou co-rédigé un rapport sur le Paris de 2050. À quoi ressemblerait un Paris en 2050 ?
Il y a une des hypothèses de départ qui est pas évidente à entendre, c'est population de l'Île-de-France divisée par deux. Déjà d'une part parce que l'Île-de-France c'est surtout des urbains et que on considère que ce qu'il y a à faire en ville en 2050 après l'effondrement, c'est plus du tout la même chose. Tout ce qui est tertiaire, marketing, finance, etc., tous ces métiers-là, ils ont plus d'intérêt et donc les gens sont plutôt repartis dans les campagnes. Donc il y a eu un exode urbain qui fait que les cycles s'inversent. Et puis l'autre aspect, c'est que malgré tout, après l'effondrement, il y a eu des maladies, il y a eu des gens qui se sont tapés dessus, il y a eu un certain nombre de choses, et donc il y a eu aussi des morts. Et on se dit que si un effondrement, c'est que ça devient difficile de manger, ça devient difficile de soigner, ça devient difficile de chauffer en hiver, etc. etc. Et on passe ce cap-là, et on arrive en 2050 dans une période où on retrouve une forme d'équilibre. Les gens qui restent encore dans la banlieue de Paris le matin au lieu d'aller vers Paris-Centre prennent les trains pour aller travailler dans les champs. Les usines automobiles sont transformées en usines à vélo. On a énormément de pistes cyclables qui sont entretenues parce que effectivement il y a beaucoup moins de voitures. Les voitures sont des véhicules partagés qui fonctionnent plutôt avec du biogaz qu'avec du pétrole. Le biogaz étant produit dans les petites unités localement. On a beaucoup de retours à la traction animale, etc. Voilà, donc on a des choses qui sont beaucoup plus localisées. On retrouve un lien entre le naturel et l'humain. Et de fait, on essaye de mieux s'adapter à ça. On parle aussi des survivalistes qui sont repliés aussi sur eux-mêmes. Alors, faut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire, le survivaliste, au départ, c'est pas du tout quelqu'un qui est replié sur lui-même. C'est devenu ça. Mais au départ, le survivaliste était aussi dans un sens collectif. Et donc aujourd'hui, il y a aussi ce type de survivalisme, c'est-à-dire où on se replie, où on achète des flingues, etc. Et c'est aussi ce qui questionne sur ce qui va se passer en cas d'effondrement. C'est qu'on va aussi avoir ce genre de comportement individuel, violent, armé. Et probablement, plus on va s'approcher des échéances et plus on va avoir cette conflictualité D'où l'intérêt de proposer des choses qui permettent de construire autrement, de manière collective, positive, tout en tenant compte des réalités. Parce que sinon, en effet, on va au-devant de conflits extrêmement graves parce qu'on n'aura rien anticipé. Et donc, on essaye d'imaginer en tout cas qu'on revienne à quelque chose de vivable et qui puisse tenir dans le temps à partir du moment où on considère qu'on n'a plus le pétrole, qu'on n'a plus les centrales nucléaires et qu'on a effectivement un niveau d'énergie qui est beaucoup plus réduit. Et donc, voilà, on a envie de donner à voir ce que pourrait être un monde agréable à vivre, mais qui revienne à des choses beaucoup plus dimensionnées par rapport à ce que la Terre est capable de nous apporter.
La catastrophe est imminente et les conséquences vont être désastreuses. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de vous réorganiser. Essayer de créer des réseaux d'entraide entre vous, dans vos villes, hein, dans vos villages, dans vos quartiers. Il faut que nous arrivions à regagner en autonomie. Il faut absolument que nous sortions du système tel qu'on le connaît. On n'évitera pas l'effondrement, mais on peut y survivre.
J'imagine que vos potes vous invitent plus en soirée.
Il y a cette idée quand même de dire l'effondrement, il ne s'agit plus de savoir si le monde va s'effondrer ou non, mais quand est-ce qu'il va s'effondrer? En gros, si j'ai bien compris, le débat, il est là, quoi.
Aujourd'hui, 12 millions d'habitants sur un territoire comme l'Île-de-France, si vous n'avez pas un oléoduc raccordé au Havre qui vous balance plus de 100 000 barils par jour de pétrole, si vous n'avez pas des centrales nucléaires autour qui vous balancent de l'électricité tous les jours, si vous n'avez pas Rungis avec votre plateforme, avec des avions, des camions qui ramènent de la nourriture tous les jours, si vous n'avez pas ça, tout s'arrête. Et donc, ça va être invivable. Ça ne va pas, juste pas être possible.
Est-ce que d'après vous, on peut encore éviter l'effondrement?
Mon point de vue, c'est qu'on n'évitera plus des catastrophes. Je ne sais pas dire lesquelles et avec quelle ampleur, mais il y a toujours une expression que je reprends régulièrement, que j'avais entendue à l'occasion d'un colloque, qui était « Noé n'aurait jamais pu construire son arche sous l'eau ». Et en effet, s'il n'avait pas commencé à construire son arche avant qu'il se mette à pleuvoir, ça n'aurait jamais marché. Et le fait est qu'aujourd'hui, on arrive à des limites et il faudrait maintenant transformer toute la société pour qu'elle devienne résiliente. Ça ne marche pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que des sociétés, ça met des décennies et des décennies à se transformer. Et donc, c'est ce qui fait dire à de nombreuses personnes, y compris à moi, qu'on n'évitera pas la catastrophe. Et des changements dont peut-être on n'a même pas idée. Moi, le changement qui m'a choqué profondément cet été, c'est de voir des arbres mourir à cause de la sécheresse. Et ça, c'est un changement auquel je ne m'attendais pas. Voilà, on passait aux côtés des forêts. Et ça, ça m'a bouleversé parce que ça fait 15 ans que je réfléchis à ces sujets-là. Et ben, je n'avais pas imaginé voir des arbres mourir à cause de la sécheresse comme ça, quoi.
France Inter. Interception.
Anticiper l'effondrement de notre société, c'est un choix encore marginal. C'est celui de Thierry et Anne que nous allons donc retrouver dans leur toute nouvelle maison corrézienne. Tous les deux travaillaient avant à l'Université de Strasbourg, Thierry comme responsable de bâtiment de recherche et Anne comme responsable administrative. Ils doivent désormais affronter une autre facette de ce changement de vie, l'autonomie financière, mais là encore, avec eux, tout a été prévu.
De quoi vous allez vivre?
On a mis un peu d'argent de côté pour pouvoir financer les travaux et acheter cette maison. L'appartement où on vit actuellement, on va le mettre en location. Et ce loyer nous fera une petite rentrée d'argent. Plus les économies qu'on a mis de côté, on a tablé sur à peu près qu'on puisse vivre tranquillement 2 ans avant d'avoir des revenus ou des solutions d'autonomie. Voilà, donc on a pris un peu nos garanties quand même.
Et donc ce sera de vivre de quoi après?
Comme la maison est grande, on va aménager le premier étage en chambre d'eau, gîte ou Airbnb, quelque chose comme ça. Et on va essayer de produire suffisamment de fruits et légumes pour pouvoir vendre le surplus, soit sur des marchés, soit en vente directe aux voisins. En discutant avec les gens qu'on a croisés ici, il y a beaucoup de troc. Donc on va rentrer dans ce système-là qui nous convient très bien.
C'est-à-dire, par exemple, si vous produisez des légumes, vous pourriez les troquer contre quoi dans le village?
Je sais pas, des châtaignes, des noix, quelqu'un vienne avec un tracteur nous donner un coup de main contre du foin, de la paille, tout ce qui peut nous servir ici, du bois.
Vous nous disiez tout à l'heure, voilà, il y avait cette volonté de retour à la terre. Il y a une petite différence avec la collapsologie, c'est qu'il y a aussi, pour ceux qui à un moment pensent que notre société va s'effondrer, c'est pas forcément simplement le retour à la Terre, c'est vraiment dans l'idée de préparer l'après. Oui. Est-ce que vous avez connu ce qu'expliquent les collapsologues dans leurs ouvrages, c'est-à-dire cette réalité, se rendre compte que la société va inexorablement s'effondrer? Et est-ce que vous êtes passé par ces phases, eux ils parlent de ces phases de deuil, c'est-à-dire des moments qui sont parfois un peu durs, vous avez connu ça vous?
Alors une fois de plus, ça doit être lié à mon caractère particulièrement enthousiaste et optimiste. Non, je ne dirais pas que j'ai connu ça, parce que même si je pense qu'effectivement, continuer comme ça, il y a un moment ou un autre, ça ne marchera pas. Mais ça, j'ai envie de dire, les théoriciens du capitalisme l'avaient déjà dit au départ, hein, que de toute façon, il y a un moment où on ne peut pas avoir toujours plus, ça ne marche pas. Donc on n'a rien inventé. Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir traversé ces phases-là. C'est plus une question de valeurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, les valeurs que la société actuelle porte, ouais, et transmet ne me conviennent plus. Je passe d'une chose à l'autre, j'ai tout le temps dans mon agenda. Est-ce que j'ai un créneau ici? Est-ce que je vais y arriver? Quand est-ce que je vais caser ça? On est très, très pris par notre quotidien et on n'a pas forcément le temps de se poser, alors que je pense que c'est indispensable.
La société nous pousse vers un fonctionnement comme ça, mais on est aussi responsable. On ne dit pas stop. Voici, oui. Maintenant, nous, on a dit stop.
Oui, nous, on a dit stop, là, c'est
bon. On voudrait, nous, devenir maître de notre vie, en fait. Donc, voilà la fameuse remorque.
Ça, c'est les armoires que vous ramenez d'Alsace.
Voilà.
C'est ça, exactement.
Et dans la voiture, quelques affaires. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous alliez abandonner et ce que vous rameniez de votre ancienne vie?
On a déjà commencé à faire le tri de choses qui nous paraissaient vraiment utiles et on a beaucoup donné.
Oui.
On a fait le tri dans nos vêtements déjà.
Oui.
Après, ça fait un moment qu'on essaie d'acheter que ce dont on a besoin.
On stade pour le téléphone, on ne sait pas trop.
De garder ou non les portables, c'est ça?
En fait, on ne sait pas encore s'il y aura un fixe ou pas de fixe. On ne sait pas trop, on n'est pas fixé là-dessus.
On voudrait garder Internet tant que ça fonctionne.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous teniez absolument à amener, soit symboliques, soit des bouquins, soit... Enfin, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous vouliez...
Les bouquins, mes plantes,
oui.
Indispensables, je ne peux pas vivre sans.
Oui, bah ouais. Les livres, c'est important aussi pour la connaissance, pas que pour la culture. On a pas mal de livres sur le jardinage, sur les plantes. Si un jour, on n'a plus d'Internet, par exemple, on se basera là-dessus pour cultiver, pour reconnaître les plantes... Voilà, c'est important, les livres. Et après, sinon, il y a les voisins, il y a les autres habitants qui ont des connaissances qu'on n'a pas. Voilà. Si Internet n'existe plus, on reviendra à aller parler aux gens, en fait. C'est essentiel.
L'échange des savoirs.
Voilà, l'échange des savoirs, l'entraide. Et je trouve que c'est ce qui manque et c'est ce qu'on retrouve ici, en fait. Les gens se parlent.
Pas agréable. Quelle vue !
Voilà, c'est la vue.
Voilà, la vue sur le terrain. Ouais. Donc le terrain monte jusqu'aux haies qu'on voit là-bas.
Tout en haut là-bas.
Ouais. Ouais,
tout en
haut. On va aller là-bas au soleil, on va prendre bien.
Ouais.
Ici, ça sera probablement le poulailler.
D'accord.
La source sort ici, là, dans le trou. Là. On ne la voit pas couler parce que c'est caché par les herbes. Mais c'est ici qu'elle sort. On l'entend peut-être couler, non? Ici, on voudrait creuser une mare pour créer un autre espace de biodiversité, avoir une réserve d'eau si on a besoin de prendre de l'eau pour de l'arrosage ou quand il fait très sec. Ça nous permettra de nous apporter d'autres insectes pour créer un équilibre le plus varié possible.
Les crapauds qui vont manger les limaces.
Par exemple.
Épargner mes salades.
Ça fera une réserve d'eau pour les oiseaux.
Ouais.
Voilà.
Quand vous avez choisi cette région, vous avez regardé aussi s'il y avait des agriculteurs qui utilisaient des pesticides, par exemple, ou c'était pas forcément?
Oui. Si, tout à fait. On voulait de toute façon pas de champs cultivés de manière moderne, on va dire. Ouais.
Après, l'avantage de la région, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une région de forêt et de pâturage.
Oui. Et donc, les quatre arbres alignés, là, ce sont des noyers.
Voilà. Effectivement, là, on voudrait faire cette forêt comestible pour avoir beaucoup de variétés.
À la limite du terrain, on laisserait une partie sauvage.
Ça, c'est mon petit coin forêt. Et l'autre jour, samedi, quand on est passé, il y avait des champignons. J'étais toute contente. Je crois qu'ils ne sont pas comestibles, mais ce n'est pas grave, c'est bon signe, les champignons.
Et là, on est juste sous un chêne.
On est à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, c'est environ 30 minutes d'Orléans. Et contrairement à Champagnac-la-Prune, où nous avons laissé Anne-Thierry, c'est une petite ville ici et c'est pas un village. Il y a autour de 8000 habitants. Si on est venu ici à Châteauneuf-sur-Loire, c'est parce que depuis 2 ans environ, une partie des habitants a créé une maison de la transition. C'est un lieu d'entraide pour se préparer localement à l'autonomie et à l'effondrement des ressources. Il y a 900 adhérents aujourd'hui et parmi eux, Léa Fantoni, jeune trentenaire qui a quitté son ancienne vie à Paris il y a maintenant plusieurs années.
Bonjour.
Bonjour Léa, Mathieu Mondoloni, enchanté.
Bonjour.
On est chez vous ?
C'est ça.
Votre futur chez vous ?
Futur chez nous.
C'est en travaux.
En construction en cours, ouais.
C'est une maison en paille.
C'est une maison en ossature bois pour la structure et l'isolant, c'est de la paille, majoritairement.
Mais et ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus ?
On est propriétaire du terrain depuis janvier et on a commencé fin février, début mars, au beau jour.
Et c'est censé être terminé quand ?
On compte emménager dans le rez-de-chaussée dans un an, avant l'hiver prochain.
C'est impressionnant de voir les ballots de paille à l'intérieur.
C'est bien de les voir de l'extérieur, comme ça les gens les voient aussi.
Ah ouais, ouais.
Une maison en paille, c'est vraiment la réponse qui arrive le plus vite et qui fait sens le plus vite, surtout par ici, en Beauce. On est entouré de champs de paille. Là, ici, c'est que des produits locaux. On a du bois qui vient de la forêt de Sologne, la paille qui vient de 30 km au nord d'un champ d'agriculteurs local qui fait de la paille... parce qu'il fait du blé. Donc ce sont des chais qu'on utilise comme des briques pour faire des murs.
Vous avez changé de vie, je crois, il y a quoi, 5 ans maintenant ?
Ouais. En habitant en région parisienne, Seine-Saint-Denis, on travaillait tous les deux à Paris. Je travaillais dans la communication, j'étais chargée d'exécution, d'impression, d'emballage. Voilà. C'était pas possible cette vie, trop de gens, trop cher. C'était un rythme qui ne nous convenait pas. Et du coup, à ce moment-là, on a décidé qu'on partirait de Paris. Et j'ai fait un bilan de compétences. Et du coup, le métier qui ressortait dans mon bilan de compétences, c'était la plomberie. Et du coup, j'ai repassé un CAP en plomberie. Voilà, un an plus tard, je l'avais. Et j'étais embauchée dans une petite PME à Orléans. On installe les énergies renouvelables, solaire et bois. C'est une autre qualité de vie, je pense.
Qu'est-ce qui ne vous convenait plus dans cette vie à Paris ? Qu'est-ce qui n'allait plus ?
Moi, je pense que c'est surtout le prix de l'immobilier qui fait qu'on est obligé d'avoir un travail qui permet de payer le loyer à la fin du mois. Donc, beaucoup de temps passé au travail pour avoir un salaire qui correspond au loyer qu'on veut. Et donc, du coup, en fin de journée, on n'a plus beaucoup de temps pour les loisirs. Et puis, on n'a plus non plus beaucoup d'argent, finalement. Et en fait, très peu de temps pour soi. Et puis, beaucoup de temps dans les transports, beaucoup de temps dans les embouteillages. Du temps perdu en voiture... qui est incommensurable. Du temps perdu. Bon, finalement, on n'en profite pas, en fait. On s'est rendu compte de ça.
Est-ce qu'il y a eu également cette prise de conscience d'un effondrement imminent, ou de nos sociétés, ou de nos ressources ?
Complètement. Je pense que c'est une prise de conscience de se dire que on va mourir. C'est avoir cette conscience-là, que la vie est courte et qu'il vaut mieux être utile que de je sais pas, essayer de rentrer dans un moule où on nous donne des besoins dont on a finalement pas besoin. C'est prendre du recul et se dire, ok, qui je suis, quel besoin j'ai moi et comment je vais y répondre.
Durant ces 5 ans, hein, c'est ça, vous avez quitté Paris il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement, de regret ? Par quoi vous êtes passé en fait ?
Je pense que le plus dur, c'est par rapport à son entourage proche, par rapport à sa famille, par rapport à son ancienne vie. De pas être les personnes qui dramatisent toujours tout. Parce qu'en plus, pour nous, c'est pas dramatiser la situation, c'est juste l'accepter, se dire ok, et être prêt à ce que ça arrive. Parce que les gens qu'on aime, on a envie qu'ils soient prêts avec nous s'il arrive quelque chose. Parce que si... Moi, mon plus grand regret, là, pour l'instant, et je bataille là-dessus, c'est de pouvoir ramener toute la famille et les amis et qu'on soit au plus près tous pour que s'il arrive quelque chose, on soit au plus près, quoi.
Je crois que vous attendez un heureux événement. Est-ce que c'est paradoxal? Est-ce que vous avez vous angoissé pour le bébé à venir? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, faut pas qu'on s'arrête de vivre, même si la société peut demain s'arrêter, quoi.
Ça a été une grande question. Moi, je pense qu'on l'élèvera pas dans l'idée que ça va être super, ça va être tout rose, la vie sera facile. Et moi-même, j'ai pas été élevée comme ça. Moi, je pense qu'il aura quand même une belle vie. Après, peut-être qu'un jour, on promettra à tout enfant qui naît que, en fait, la durée de vie, finalement, ça allait être plus que de 30 ans.
Je vous laisse me guider. Okay. Donc, on va
tout
où ?
Tout droit, à la maison de la transition.
Qu'est-ce qu'on va faire là-bas là ? On va manger, c'est ça ? Parce que je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides.
Non, on se ramène un gâteau pour le dessert, pour ce repas partagé. D'autres personnes de l'association vont avoir préparé d'autres choses.
Interception sur France Inter.
Avant de retrouver Mathieu Mondoloni avec les habitués de la Maison de la Transition, faisons un détour pour entendre ceux qui n'adhèrent pas à la théorie de l'effondrement. Ce ne sont pas pour autant des climato-sceptiques. Ils n'ont eux non plus aucun doute sur le carnage commis par l'homme sur les ressources de la Terre. Jean-Baptiste Fressoz est historien, chercheur au CNRS, spécialiste de l'histoire environnementale.
Oui, bonjour, c'est Mathieu Mondoloni.
Qu'est-ce qui séduit, d'après vous, autant de gens en ce moment autour de la collapsologie de ce mouvement de transition? Parce qu'ils sont persuadés que l'effondrement va avoir lieu dans 10 ans, 15 ans maximum, de notre vivant, en fait.
Bon, premièrement, c'est les mauvaises nouvelles que nous annoncent les scientifiques. C'est-à-dire le fait qu'à chaque rapport du GIEC, ils disent c'est plutôt le scénario grave qui est en train de se réaliser. Donc forcément, ça crée une forte angoisse. Et l'autre chose qui séduit, c'est que la collapsologie, finalement, résume dans un récit hyper simpliste, cette crise environnementale qui est en fait quelque chose de compliqué, qui va impacter évidemment les populations de manière très différenciée, suivant là où vous habitez, quelle classe sociale vous appartenez, etc. Et avec cette idée d'effondrement, finalement, cette angoisse environnementale qui est tout à fait légitime, elle est résumée avec quelque chose de très choc, très simple. Et je pense que le succès de la collapsologie, ça tient surtout à des siècles d'acculturation, à l'idée de catastrophe et d'apocalypse. Et évidemment, ça remonte à la chrétienté, ça remonte au romantisme, etc. Voilà. Alors, ce qui est bizarre dans la collapsologie, je trouve, et là on voit que ça pose problème, c'est qu'on a l'impression que tout se confirme, en fait. C'est-à-dire, vous prenez l'effondrement de l'Empire romain, la disparition de telle bande de poissons, un choc financier quelconque, tout ça renvoie à une sorte de gros machin qui serait l'effondrement. Et je pense que c'est ça le problème. Alors, ils disent que c'est transdisciplinaire, etc., mais c'est surtout, à mon avis, le fait qu'ils mélangent un peu tout, ils mettent tout dans le même sac. Après, l'autre point assez curieux dans la collapsologie, c'est qu'ils sont persuadés que c'est les sociétés riches qui sont les plus fragiles. C'est les sociétés les plus techniques qui sont les plus fragiles. C'est les sociétés, justement, qui reposent sur des grands réseaux de transport qui sont les plus fragiles. Alors, historiquement, évidemment, c'est l'inverse. C'est-à-dire, vous prenez les grandes crises, les sociétés les plus riches en sont toujours mieux sorties. Par exemple, en 1815, il y a un grand volcan qui explose, le Tambora, en Asie du Sud-Est. Il y a des famines catastrophiques en Asie. L'Angleterre s'en sort très bien. Parce que justement, elle a un réseau d'approvisionnement qui fait qu'elle peut toujours acheter du grain quelque part. Donc en fait, les sociétés riches sont beaucoup moins vulnérables, évidemment, face au changement climatique. Alors pourquoi ils sont persuadés que c'est les sociétés riches qui sont vulnérables? Parce qu'ils sont obsédés par le pic du pétrole. Et c'est ça le point d'origine de la collapsologie, en fait. C'est le choc pétrolier de 73 qui a produit une inflation de discours sur la fin des énergies et une collapsologie énergétique. Et finalement, la collapsologie actuelle ne fait que recycler ces inquiétudes sur le pic du pétrole en les mélangeant avec le changement climatique, alors que c'est des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Même qui ont absolument rien à voir, c'est même plutôt opposé. C'est-à-dire que le problème, ce que nous disent les géologues et les climatologues, c'est que du pétrole, du charbon, du gaz, il y en a beaucoup trop. Pour des raisons climatiques.
Tu fais le plein ?
Non, attendez.
Maintenant !
Attends, c'est pas la peine de nous menacer, on t'a expliqué. Si on a besoin de rationner, d'accord ? Regarde tous les gens qui attendent.
J'en ai rien à foutre des gens qui attendent !
Fais ce que je vous demande !
Voilà, écoute là, fais ce que je te demande !
D'accord, c'est bon.
Il y a cette idée aussi qu'on va faire la révolution sans faire la révolution. C'est une manière de penser une table rase politique Après l'effondrement, il n'y aura plus les grandes structures politiques telles qu'on les connaît, les grandes structures économiques. Et donc, on va pouvoir tout réorganiser comme on l'entend. Et comme on l'entend, c'est dans le sens de l'autogestion, de petites communautés relativement autonomes. C'est lié à la pensée anarchiste, en fait, pour dire les choses simplement. Ça permet de repenser la révolution à un moment où, voilà, c'est après la fin des utopies communistes et après le discrédit de cette idée de révolution.
Donc, c'est une vision très égocentrée. Parce que cet effondrement, finalement, ou ce dérèglement climatique et ses conséquences désastreuses, ça a déjà commencé dans beaucoup de pays pauvres. On voit en Inde des gens qui meurent de soif, on voit des catastrophes naturelles qui se multiplient.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une écologie qui vient des pays riches et du monde occidental, les impérialistes du 19e siècle, expliquaient qu'il fallait coloniser pour éviter l'effondrement environnemental. Là, après, c'était un discours néo-malthusien, évidemment, depuis le 19e siècle, et c'est quelque chose qui est très présent encore dans le monde anglo-saxon. Aux États-Unis et aussi en Angleterre, la droite blanche est farouchement malthusienne, néo-malthusienne. Enfin voilà, l'effondrement, à mon avis, ça nourrit plutôt des affects de droite. En France, ça a été introduit plutôt par des personnalités de gauche, et je pense bien sûr à Yves Cochet. Mais au niveau mondial, je pense que l'effondrement nourrit plutôt une pensée très conservatrice, qui est obsédée par la question de l'immigration, par exemple, la question de la race, etc.
Vous faisiez aussi des références dans vos écrits, ce que j'ai trouvé, à la littérature et à la science-fiction, par exemple, avec des thèmes qui reviennent très régulièrement chez Jules Verne, chez Pierre Boulle. Mmh. C'est quelque chose, en fait, qui fait partie de l'être humain, cette peur d'un effondrement ou de la fin d'un monde imminent.
Alors, de l'être humain, je ne sais pas. Ça fait partie de la littérature occidentale depuis très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le 19e siècle, au moment où il y a la première industrialisation, la question de l'apocalypse, parce que c'est en fait ça dont on parle, hein, a été recyclé dans un discours de la catastrophe technologique et environnementale. Si ça parle autant, c'est parce que les générations actuelles ont été complètement gavées de science-fiction post-apocalyptique. Donc ça joue un rôle très important. Mais une fois encore, c'est pas simplement un phénomène culturel. C'est-à-dire la crise environnementale, elle est là, elle est massive. Mais le problème, c'est que l'effondrement, d'une certaine manière, l'effondrement de la nature, il est déjà très avancé. Il est en cours, dans certains cas, dans certains pays, il a déjà entièrement eu lieu, quasiment. Il y a un côté un peu moralisateur aussi, parce que finalement, si c'est les pays riches qui s'effondrent, j'ai envie de dire, c'est un peu bien fait pour eux, parce que c'est eux qui ont causé la crise environnementale au départ. Donc il y a un côté très moralisateur derrière cette idée d'effondrement. Ce qui est particulièrement injuste avec le changement climatique, c'est que c'est les pays riches qui ont causé le dérèglement qu'on connaît, qui sont sans doute les mieux armés pour s'en prémunir.
Ah, c'est le châtiment ! Faites pénitence ! La fin des temps est venue !
Oh, je n'en reviens pas ! La fin du monde !
On arrive à la maison de la transition. Elle est située en plein centre de Châteauneuf-sur-Loire. À l'intérieur, il y a un café, des ateliers, des bureaux où se retrouvent quotidiennement les adhérents. Ils viennent ici pour échanger, réfléchir et pour certains se préparer à l'effondrement. Car le but de cette maison, c'est avant tout d'être un laboratoire pour le monde de demain.
Merci.
Bonjour.
Vous avez cette.
Oui. Voulez-vous passer à table ? Madame sera servie alors qu'elle désire.
Il n'y a peut-être pas encore assez de monde d'arriver pour le moment. Hein, on va attendre un petit quart d'heure.
Parfait.
On va le temps de faire la visite. Donc ici, c'était une brasserie.
D'accord.
Avec une liquidation. Donc finalement, il n'y avait plus rien du tout que le comptoir et les étagères en verre. Et il y a eu en fait 60 personnes pendant un an qui ont travaillé à presque 10 000 heures de bénévolat pour pouvoir transformer.
C'est
voilà.
Ça.
De tout le territoire ici. Mais on y est arrivé, vous voyez. C'est quand même une belle harmonie, tout ça. Donc, dans cet espace ici, on peut faire des concerts. On fait aussi il y a des conférences. Hier soir, il y avait une conférence sur l'Islande.
Et l'objectif général de cette maison de la transition, c'est quoi alors ?
L'objectif général, c'est de permettre aux gens de tisser des liens. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on va tisser des liens en faisant quelque chose. Alors ça peut être en buvant une bière ensemble, ça c'est possible, mais ça peut être aussi en pratiquant une activité qui nous plaît ou dont nous avons besoin. Ce qui est le cas pour le coworking, par exemple, où on a besoin d'un espace pour travailler avec une bonne connexion Internet, mais aussi un espace où on va pouvoir se former et éventuellement se reconvertir. On ira visiter tout à l'heure. L'idée, c'est que de ne pas se sentir seul pour pouvoir affronter des lendemains qui s'annoncent un peu compliqués et difficiles à gérer. Et quand on est nombreux à porter les idées, ben finalement, on est plus fort et c'est quand même le but de cet espace ici. On se prépare, mais on le vit déjà avec certaines personnes qui viennent ici. L'autre jour, une personne est arrivée là, qui a dit « ça fait 4 ans que je suis à Châteauneuf, je connais personne ». Parce que je ne peux pas rentrer quelque part avec mon petit chien. Et elle a franchi la porte, elle était là, et elle était heureuse d'être là avec son petit chien. Voilà. C'est tous les jours des perles comme ça qui nous arrivent.
Et il y a de plus en plus de gens, je crois, qui poussent la porte de cette maison de la transition. Il y a combien d'adhérents? Au début, vous étiez 60, je crois.
Alors, on a été 60 pour faire les travaux, mais on était déjà à peu près 120 adhérents. Quand on a ouvert, on était passé à 220, et au mois de décembre, on était à 880. Voilà, installez-vous. Voilà,
ça ressemble pas au modèle.
On vient de terminer notre repas partagé. Ça y est, la maison de la transition est en train de s'éveiller. Il y a un atelier couture qui s'organise juste à ma gauche. Derrière, dans la petite cour, il y a un atelier réparation de vélos. Et puis, on discute aussi, on échange, on confronte ses points de vue. C'est le cas au bar, à notre droite. Là, on va se rapprocher de Nicole, Marie-Claude, Simone et Jeannette qui sont en train de se poser une question centrale. Faut-il, oui ou non, parler d'effondrement aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un sujet trop anxiogène?
On prononce le mot effondrement, qu'on prononce le mot collapsologie, moi ça m'arrive d'être en face de gens qui me regardent avec des grands yeux, qu'est-ce qu'elle nous raconte là, mais je pense qu'il vaut mieux être au courant, si on a un cancer, je pense qu'il vaut mieux être au courant qu'on a un cancer pour faire tout ce qu'on peut pour lutter et vivre les derniers moments le mieux possible, voilà.
Mais y compris à faire peur aux gens, parce qu'en fait, ça peut faire peur.
Il ne s'agit pas de faire peur. Oui, j'ai eu récemment un échange avec un ami qui veut dire, on a plutôt qu'à tous se flinguer. Non, je lui dis qu'il faut inventer. L'intelligence collective, moi j'y crois, c'est pour ça que finalement la maison de la transition, c'est aussi de l'intelligence collective. Et donc, on va beaucoup plus loin que tout seul dans son coin. Je pense qu'il vaut mieux être au courant, être face au danger plutôt que de le nier. Là, on en est dans une phase ou de déni, ou ce qui est pire encore, ils trouveront bien des solutions. Mais je pense que c'est à tout le monde et à chacun de trouver, d'essayer de participer à cette découverte de solutions. Mais tout en sachant qu'on peut ne pas en trouver. Ce que nous disent les rapports du GIEC, on n'a même pas besoin de les lire, il suffit de regarder autour de soi et de voir cet été ce qui s'est passé, de voir l'état des glaciers un peu partout. Là, quand j'ai vu récemment une photo des Pyrénées où j'étais allée il y a 15-20 ans, et j'ai pas vu de glacier que j'avais grimpé avec mes petits crampons. Donc ça va très très vite, ça va très vite.
Oui, mais je crois qu'on ne nie pas ce qui est en train de se passer. On n'est pas du tout dans le déni. Je pense que ce qui est important, c'est de développer l'esprit critique. Le mot effondrement, le mot collapsologie, je ne l'aime pas parce que je pense que c'est trop anxiogène.
Voilà. Tout à l'heure, les enfants, ils ont compris avant nous, hein. Cette petite fille de 12 ans qui dit « je n'aurai pas d'enfants parce que le monde ne me permettra pas d'avoir des enfants », ils ne survivront pas. Je crois qu'ils sont très très conscients, les enfants.
Mais ça ne leur évitera pas de demander un iPhone, etc. C'est déjà, ça le problème.
Ne pas parler de la gravité de la situation, ce n'est pas forcément prendre les meilleures solutions.
Non,
puisque
c'est pas ce qu'on dit, Nicole. Enfin, je crois qu'on n'est pas dans ne pas parler. On est dans ne pas parler que d'effondrement.
On ne parle pas de ça. J'aime bien manger, j'aime bien...
Mais si tu veux, en termes de stratégie, les humains, ils vont être amorcés le changement à condition qu'ils pensent avoir un bénéfice au changement. Et un discours d'effondrement dur, c'est un discours qui fait dire aux gens qu'il y a de toute façon, quoi qu'ils fassent, il n'y aura pas de bénéfice parce que c'est trop tard. Et ça, moi, c'est un discours qui me fait peur parce que ça ne met pas les gens en action. Il y a des gens qui disent, on en entend, qui disent, eh ben, on n'a qu'à continuer. De toute façon, au point où ça en est, un peu plus vite ou un peu plus lentement, c'est pas grave. Voilà. Donc moi, c'est ça qui me fait peur dans un discours trop alarmiste. Il faut dire les choses, pas de façon trop alarmiste.
Et dire d'une certaine façon, on ne peut pas dire qu'on avait un avenir glorieux. Il y a des régions, les régions les plus peuplées du monde sont les deltas, et bien il va y avoir des millions de gens qui vont être des réfugiés climatiques, et comme il y aura moins de terres disponibles, on risque d'avoir des pénuries, ça veut dire des conflits. Alors si on raconte tout ça en 5 minutes à quelqu'un qui n'est pas préparé, je pense que ce n'est pas une solution. mais je crois qu'il faut quand même savoir que c'est possible. Moi, quand je parle du dégel du permafrost et que ça va libérer du méthane et des bactéries pomarantes, bah, d'abord, il y en a qui sont pas au courant du tout, et puis... mais je pense qu'il faut avoir effectivement une vision la plus proche, des, malheureusement, de la réalité, pour faire face et pour avoir envie aussi de l'action. Parce que sinon, tu peux très bien faire comme dans le naufrage du Titanic, ça va bien, et continuer au son des violons à danser en attendant de s'écraser sur l'iceberg. Hein. On n'a pas voulu faire peur aux gens, et on n'a pas anticipé assez.
Mais on est d'accord.
C'est un mélange de publics, ceux qui prennent les décisions et ceux qui n'ont fait que les subir. Parce que ceux qui dansaient au son des violons, ils ont subi les décisions de l'équipage,
oui,
en fait.
Ah oui,
c'est pas pareil. On subit les décisions de l'équipage qui nous gouverne.
This is not a time for pessimism, but to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse.
Effondrement et après, Mathieu Mondoloni a signé ce reportage avec Sandrine Malon à la prise de son, réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier, mixage Manuel Couturier. Cette émission est d'ores et déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr. La semaine prochaine, nous allons voyager et partir sur les traces des éléphants dans une forêt de Guinée-Conakry. À la semaine prochaine.